Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Un téléviseur Apple, est-ce que ça vous dit? C'est le retour d'un vieux serpent de mer qu'on croyait totalement disparu. Apple envisagerait de développer une télé, et oui, une télé, si ses autres appareils dédiés à la maison marchent bien. À plus court terme, c'est un iPhone 17 ultra fin que le fabricant pourrait essayer de nous vendre. Faut-il croire ces rumeurs surprenantes? On va en discuter avec Christophe. Et dans le reste de l'actualité, Google risque de devoir se séparer de Chrome sur fond d'affaires antitrust, et le très populaire service de sport Strava porte un coup aux applications tierces. Nous sommes le samedi 23 novembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. C'est un numéro un peu spécial de sortie de veille, puisque c'est le numéro 200. Et oui, le temps passe vite. Alors, j'ai rien prévu de très spécial pour l'occasion, mais j'ai évidemment une pensée pour Michael, qui a donné le coup d'envoi de ce podcast avec son entrain et son professionnalisme légendaire. Salut Christophe, ça va ?
Salut Stéphane, bah ça va très bien, on prend un petit coup de vieux encore, mais ça va, et toi ?
Ça va bien, ouais. Tu te souviens des débuts de sortie de veille ?
Bah, tout d'abord, j'ai entendu dire que la plupart des podcasts ne dépassaient pas le cap des 10 épisodes. Donc,
ah oui,
je pense qu'on peut dire qu'on est installé.
Ah, bah, c'est pas mal alors, ouais.
Je me souviens également des premières démos, notamment avec les pastilles qui arrivaient en seconde partie de sortie de veille. Mm-hmm. Bah ouais, c'est beaucoup de bons souvenirs et on a une pensée bien entendu pour Mickaël. On a toujours essayé depuis le 16 mai 2022, donc ça fera 3 ans l'année prochaine, que Sortie de veille fasse le tour des sujets qui font l'actualité dans la bonne humeur. On a eu plusieurs formules, quotidiennes, puis hebdomadaires. Au début, c'était réservé aux membres du club, puis on a élargi la diffusion de Sortie de veille. Donc voilà, écoutez, on est très contents d'arriver au numéro 200. Alors, si vous aimez notre travail, on ne vous embête pas trop avec ça, mais on vous encourage quand même à faire deux choses. Parler du podcast auprès de vous. Moi, je suis sûr que vous connaissez des geeks ou des Apple maniaques qui ne connaissent pas Sortie de veille, donc faites-leur connaître. Et si vous avez 5 minutes, faites un petit détour par Apple Podcast, donnez-nous le 5 étoiles, laissez un petit commentaire sympa. Ça aide toujours. Mais merci d'avance, en tout cas.
Et on rappelle, donc, le podcast est gratuit, mais les membres du Club Hygiène ont le droit à une version sans pub. Depuis le site du Club Hygiène, ils peuvent souscrire. Intégrer le podcast dans leur application de podcast favori sans pub. On va parler maintenant du premier sujet de la semaine. C'est le retour d'une rumeur qu'on n'attendait pas du tout. Alors, c'est Apple qui pourrait développer un téléviseur. Alors, si vous aviez prévu de profiter du Black Friday pour acheter une télé, vous pouvez quand même y aller. Hein. Le modèle d'Apple est très hypothétique pour l'instant. D'après Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg, si ces nouveaux produits destinés à la maison marchent bien, comme l'écran connecté qui devrait sortir l'année prochaine, Apple pourrait en effet remettre sur l'établi un téléviseur. Donc ça ne sortirait pas avant plusieurs années. Hein. C'est pas la première fois qu'on entend parler d'une télé Apple. Il y a une dizaine d'années, voire même une quinzaine d'années, il y avait eu de nombreuses rumeurs à ce sujet. Je me souviens notamment de l'analyste Jen Munster, qui croyait dur comme fer, mais qui a dû se faire une raison au bout d'un certain temps. Christophe, tu crois vraiment qu'Apple pourrait lancer une télé? Parce que je me dis qu'elle aurait pu le faire il y a longtemps, si elle avait voulu. C'est pas le produit le plus compliqué à fabriquer.
Écoute, j'en ai un petit peu marre d'attendre. Ça fait 15 ans que j'ai pas changé mon téléviseur Sony.
Donc... Moi, ça fait 10 ans pour le mien, donc j'attends aussi.
Non mais t'as raison. Alors, un téléviseur, c'est simple à faire. Un téléviseur qui soit sympa à utiliser, c'est déjà un peu plus difficile. Un téléviseur avec une pomme dessus et 30% de marge, ça l'est encore plus. Plus sérieusement, le succès d'un produit est en grande partie lié à son timing. L'iPhone, par exemple, il est arrivé pile poil au bon moment. Le marché des smartphones décollait, mais il était encore balbutiant. Le Vision Pro, par contre, est arrivé dans un marché quasi inexistant, où il y avait même des études quelques mois avant qui faisaient un état de baisse des ventes de casques VR. Là, on parle d'un marché établi qui a connu quelques évolutions ces dernières années, mais il n'y a pas eu de saut technologique récent et on n'en voit pas à venir, à moins que l'intelligence artificielle rende tout d'un coup transforme le téléviseur en objet complètement novateur, mais j'ai un peu de mal à y croire.
Oui, il y avait une mode pendant un moment de télé 3D au début des années 2010, ça n'a pas resté longtemps.
Oui, puis il y a eu le passage également à la 4K où on s'était dit que là, il y avait peut-être éventuellement une ouverture. Mais non, rien de tout ça. De mon point de vue, le téléviseur d'Apple, il existe déjà, il s'appelle Vision Pro, mais d'un point de vue marketing, il est horriblement mal positionné. Voilà, et je pense que si Apple sortait un téléviseur, ce serait presque gênant. Là, ça voudrait dire qu'on est quand même passé de l'entreprise qui disait non à tout, sauf à une ou deux bonnes idées de temps en temps, à une société qui dit à oui à toutes les idées en espérant que cela fasse un peu de croissance. Et alors, petit tips pour Apple, si Apple ne sait vraiment pas quoi faire, qu'elle se remette à faire des time capsules et des bornes AirPort, je suis sûr que ça fera des heureux.
C'est vrai, ouais. Il y a également eu cette semaine une rumeur sur un produit plus proche de nous. Apple préparerait un iPhone 17 beaucoup plus fin que les autres. D'après l'analyste Jeff Pooh, je ne sais pas exactement comment on doit prononcer, désolé pour lui, il pourrait faire seulement 6 mm d'épaisseur. Alors le record sur un iPhone est détenu jusqu'à présent par l'iPhone 6 qui faisait 6,9 mm. Et le record tout produit confondu, c'est l'iPad Pro 13 pouces M4 qui fait uniquement 5,1 mm d'épaisseur. Et c'est vrai que sa finesse est impressionnante. Cet iPhone 17 Air ou Slim, on ne connaît pas encore son nom exact, serait un modèle vraiment à part dans la gamme, puisqu'il pourrait être vendu aussi cher, voire plus cher qu'un iPhone 17 Pro, mais n'aurait pas toutes les technologies des modèles vraiment haut de gamme. On imagine en effet qu'il sera difficile de caser autant d'appareils photo dans un modèle super fin. Est-ce qu'elle te paraît crédible, cette rumeur d'iPhone 17 super fin et super cher?
Oui, et pour plusieurs raisons. La finesse, comme tu le disais, est de retour comme argument commercial dans certains produits comme l'iPad Pro. Donc, alors sur un iPad Pro, c'est sympa, mais sur un iPhone, un objet qu'on transporte en permanence, ça peut avoir son importance pour certains utilisateurs. Et puis, il y a des technologies au niveau des batteries qui permettent d'amincir les produits sans trop sacrifier l'autonomie. Samsung, il y a des rumeurs assez claires qui laissent entendre que le géant coréen travaille sur un ou plusieurs smartphones similaires. Alors, en même temps, on a également pu dire que ces nouvelles batteries, entre guillemets, quand j'ai nouvelles batteries, parce que c'est pas non plus une révolution, elles auraient pris un peu de retard, alors ça pourrait éventuellement contrarier les projets d'Apple. Quoi qu'il en soit, je trouve que l'idée, elle est intéressante. Ça fait quand même des années qu'Apple cherche à avoir une gamme séduisante. Mais dans cette gamme, la gamme qui sort chaque année au mois de septembre, il y a toujours un ou plusieurs modèles qui peinent à exister. Voilà, le Mini, il n'a jamais trouvé son marché.
Malheureusement.
Voilà, c'est à peu près la même chose pour l'iPhone Plus. Alors qu'en plus, ce sont deux produits qui ont des vraies qualités, mais les approches, sauf éventuellement peut-être pour le Mini, elles sont trop similaires par rapport aux autres modèles de la gamme. Alors, il y a quand même beaucoup de gens qui râlent contre le poids de l'iPhone. Donc là, l'idée serait d'offrir un appareil qui est à la fois élégant et qui a un joli design. Donc oui, moi je pense que il y a une part des utilisateurs qui peuvent accueillir cet appareil favorablement. Alors oui, tu parles de l'appareil photo qui serait peut-être moins bien que celui d'un iPhone Pro, mais je considère qu'il y a beaucoup de gens pour qui, on va dire que l'appareil photo d'un iPhone 15 ou même d'un iPhone 14 est largement suffisant pour leur usage. Alors, le seul danger par rapport à ça, c'est de faire vraiment un appareil qui mise que sur le design, et là on se retrouve un petit peu avec un appareil comme le Cube, qui a un effet waouh pendant quelques temps, et puis quelques mois après, les ventes s'effondrent d'elles-mêmes. Donc je pense que la question de la tarification sera primordiale. Bon, mais quitte à radoter un petit peu, cet iPhone 17 Air, j'ai quand même l'impression que c'est une sorte d'amuse-gouche, avant de sortir quelque chose de plus disruptif.
Comme un téléphone pliable, tu veux dire?
Oui, c'est ça. Et qu'Apple pourrait vendre encore beaucoup plus cher et qui aurait sans doute une fréquence de renouvellement bien plus importante que les iPhones traditionnels. Je pense que c'est là où Apple peut vraiment faire de la croissance à court et moyen terme.
Mais j'ai déjà vu des blagues comme quoi l'iPhone 17 Air serait en fait un iPhone pliable, puisque en fait il rappelle l'iPhone 6 qui était donc très fin, mais qui pouvait se plier dans la poche. C'était pas voulu, mais c'est arrivé. Ouais.
Donc d'un point de vue design, ce sera effectivement la chose qu'on va tous suivre de très très près.
Ouais, bon, j'imagine qu'Apple fera du coup très attention sur ce coup-là, mais il faudra quand même suivre ça. Ouais. On va parler d'un tout autre sujet maintenant, on va parler d'une affaire antitrust aux États-Unis. Alors ce n'est pas Apple qui est au centre du dossier cette fois-ci, mais c'est Google, reconnu coupable d'abus de position dominante sur le secteur de la recherche et de la publicité en ligne, Google devra peut-être se séparer de Chrome. C'est la demande qui a été faite par le département de la justice américain, qui estime que Chrome est un point d'accès clé vers le moteur de recherche de Google. Or, on sait tous que Chrome et le moteur de Google sont tous les deux ultra dominants dans leur domaine. Et puis, le département de la justice glisse même l'idée d'une cession d'Android en cours, en dernier recours. Mais si Google doit vendre Chrome, qui est-ce qui va racheter ça ?
Alors tout d'abord, je tiens à préciser que depuis le début de cette histoire, on va dire qu'il y a des spécialistes qui ne cessent d'affirmer que cela ne se produira pas.
Oui.
Donc on verra. La vente de Chrome me fait penser, toute proportion gardée, à celle d'ARM. Personne ne voulait y aller parce que c'était compliqué. Nvidia s'est proposé, mais ça finit par être retoqué parce que ça donnait un poids trop important à Nvidia. Quand on voit l'importance qu'a pris Nvidia ces derniers mois, qui doit être maintenant, enfin, il faudra vérifier, mais je crois que c'est la première capitalisation boursière, on ose imaginer ce que cela serait si elle avait mis effectivement la main sur ARM. Mais comparaison n'est pas raison. Il y a plusieurs problèmes. Alors, le premier, c'est qu'on ne gagne pas facilement d'argent avec un navigateur web. C'est un produit gratuit qui demande des ressources considérables. La fondation Mozilla galère depuis des années pour atteindre un équilibre financier. On va dire, les deux autres acteurs majeurs que sont Microsoft et Apple, ils possèdent effectivement chacun un navigateur web, mais c'est pour des intérêts stratégiques, c'est pas pour gagner de l'argent. Alors, bon, avec la taille de Chrome, je pense que malgré tout, c'est pas un problème de monétiser un tel produit. Reste une question, qui pourrait être intéressé par Chrome ? Alors, j'ai cherché comme ça, hein, et j'ai fait, on va dire, une sorte de petite liste, et j'ai pas de bonne idée, on va dire. J'ai pensé, évidemment, tout de suite à Microsoft. Oui. Voilà, ça fera un petit retour vers le passé. Internet Explorer, 25 ans plus tard, est de retour. Je crois que personne n'a envie de ça.
Oui, puis est-ce que les régulateurs laisseraient faire ça m'étonnerait.
Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Voilà. Autre acteur qui a des moyens et qui pourrait acheter Chrome, c'est Apple. Mais on retombe sur le même problème. Hein, on va se retrouver avec un acteur qui posséderait tout d'un coup, enfin qui dominerait de manière outrageuse le web desktop et mobile. Pas bonne idée. Troisième acteur de cette liste, j'ai pensé à Meta. Mm-hmm. Après tout, pourquoi pas ? Mais quelle personne censée a envie de ça ? Pire, je me suis dit, et pourquoi pas Twitter ? Oui, enfin X.
Ouais.
Bon, alors en même temps, ils ont des petits problèmes financiers, mais sait-on jamais. Je continue la liste. Il y a une rumeur qui dit que OpenAI veut faire un navigateur web. Donc pourquoi OpenAI qui arrive à lever beaucoup d'argent ? Ce serait éventuellement un acteur plausible.
Oui, c'est un acteur qui est naissant, on va dire, qui n'est pas établi du tout sur le marché des navigateurs. Alors, pourquoi pas eux ?
Ah, sinon, il y a peut-être des acteurs de taille intermédiaire qui sont orientés vers le web. Alors, j'ai pensé naturellement à Adobe. Pourquoi pas ? Et sinon, il pourrait y avoir un fonds d'investissement qui pourrait se jeter sur l'occasion et nommer une équipe chargée de rentabiliser au maximum Chrome. Ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, ce ne sera pas simple. Et alors, ce qui est très intéressant, j'ai lu aussi, notamment sur Twitter, des commentaires d'employés d'Alphabet qui étaient assez choqués par... cette décision, par le spectre d'une vente de Chrome, et il disait, là où c'est d'autant plus dur, c'est que Chrome, c'est quand même un produit qui a été développé en interne par Google. Il faisait la comparaison avec YouTube, il disait, YouTube, on comprendrait éventuellement, c'est pas vraiment un produit Google à la base, c'est une société qu'on a rachetée, puis on a développé le produit. Donc, mais voilà. L'avenir nous le dira, c'est sans doute pas l'hypothèse la plus probable. Et puis, il y a en plus le changement d'administration qui pourrait jouer un rôle dans cette affaire. Enfin, il ne faut pas oublier que Donald Trump a la dent dure contre Google. Et tout ça pour finir, j'ai l'impression que certes, Apple a des problèmes judiciaires, mais je crois que par rapport à Alphabet, les problèmes d'Apple, c'est assez peu de choses au final.
Pour Chrome, donc, ça sera à la justice de trancher. On devrait peut-être avoir une réponse en août 2025. Donc, c'est pas encore pour tout de suite. On va terminer le tour de l'actu avec un geste pas très fair-play de la part de Strava. Strava, si vous ne connaissez pas, c'est une application très populaire qui permet d'enregistrer sa pratique sportive. Il y a aussi tout un aspect communautaire qui est très poussé. Mais Strava, c'est plus qu'une application, c'est un service qui est intégré à de nombreuses applications tierces. Et Strava a annoncé cette semaine des restrictions qui vont changer de manière importante les capacités des applications tierces. Celles-ci ne pourront plus afficher les données de l'utilisateur à d'autres personnes que lui, ce qui est problématique si on veut montrer ses performances dans un groupe de sport, par exemple. Et il y a également une nouvelle règle qui va interdire aux modèles d'intelligence artificielle intégrés à des apps de s'entraîner avec les données de l'utilisateur. Strava explique que ces mesures sont prises pour renforcer la confidentialité des données de ses utilisateurs. Est-ce que ça te semble justifié ou bien c'est juste un moyen de pousser les utilisateurs à utiliser l'application officielle ?
Alors c'est compliqué, comme toujours, il y a des règles et puis il y a...
L'interprétation ?
Voilà, ça me fait penser un petit peu à l'Union européenne. Pour tenter d'expliquer à ceux qui n'utilisent pas Strava, Strava, en quelque sorte, c'est le hub numérique du sportif. Beaucoup mettent leurs données dessus, c'est pratique pour moins dépendre par exemple d'une marque de montre ou d'un service d'entraînement. Imaginons, vous possédez pendant 2 ans une Apple Watch, donc vous faites toutes vos séances de sport avec, donc vous avez toutes vos données, on va dire, dans l'application Forme et dans Santé, puis après vous décidez de changer votre Apple Watch pour une montre Coros ou une montre Garmin. Et bien là, vous avez 2 écosystèmes différents et vous ne pouvez plus comparer vos données, vu que vous êtes donc dans deux écosystèmes différents. Là, vous centralisez tout sur Strava, qui est la plateforme la plus populaire, mais il y en a d'autres qui font la même chose avec Nolio, qui est une plateforme d'entraînement française, ou Training Peaks. Et vous avez plus de soucis, puisque là, la montre, vous avez toutes vos séances d'entraînement depuis que vous avez commencé à faire vos synchronisations. Alors, je ne doute pas qu'il y ait des enjeux de sécurité, que Strava craigne que d'autres services en profitent pour utiliser les données des utilisateurs pour entraîner des intelligences artificielles. Enfin, voilà. Tout ça, c'est une histoire de curseur. À la fin, c'est un peu comme Apple ou Twitter qui ont des rapports parfois compliqués avec leur communauté. Et voilà, et Strava, comme d'autres, ne doit pas oublier que sa communauté a fait en grande partie son succès. Alors, on l'a vu, voilà, le dernier cas, comme je disais 30 secondes auparavant, c'était X. Et c'est un petit peu similaire. Voilà, il y a eu une vraie cassure quand X a décidé d'abandonner les clients tiers. Voilà. Alors, si Strava serre un peu trop la vis, il est probable que les clients historiques décident de se tourner vers d'autres services.
Eh bien, écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end.
Bon week-end à tous.
Et à la semaine prochaine pour un prochain numéro de Sortie de Veille, le 201e du coup. Salut à tous !